Donc moi je vais vous parler d'un deuxième type de modèle d'impact, l'impact hydrologique. Alors j'ai voulu commencer par présenter simplement ce qu'est le principe des modèles hydrologiques pour être sûr qu'on parle bien de la même chose. Et puis ensuite j'ai voulu séparer les dans trois grandes sources d'incertitude, donc celles liées aux conditions atmosphériques, que je pense après la présentation de ce matin, je pense qu'elle est encore plus grande que ce que j'imaginais. Ensuite, celles liées aux processus physiques, dont certains d'ailleurs sont également dans les modèles de climat, et puis ensuite ceux liés à l'anthropisation. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'on modélise ? Donc on travaille sur l'hydrosystème. Alors l'hydrosystème, il est composé d'aquifères, d'une zone non saturée qui se situe au-dessus des aquifères, d'une surface qui est donc l'interface avec l'atmosphère, sur laquelle coulent des rivières, et puis ensuite il y a des lacs et des océans. Donc c'est à peu près ça qu'on essaye de simuler. Et en fait, on a des systèmes qui sont assez différents pour prendre en compte ces hydrosystèmes. Pour simplifier, je dirais qu'il y a deux grands types de modèles. Il y a des modèles distribués à base plus ou moins physique, qui essayent de prendre en compte les différents éléments. Et puis il y a des modèles simplifiés, qui sont plutôt des modèles à réservoir, donc beaucoup plus simplifiés, beaucoup plus conceptuels. Et donc aujourd'hui, je vais essayer de présenter l'incertitude associée aussi à ces deux types de modélisation. Et tout d'abord, je vais essayer de préciser de façon générale les sources d'incertitude que je vais présenter ici en rouge. Alors évidemment, la première, c'est les conditions atmosphériques. On est très sensible aux précipitations quand on travaille sur l'hydrologie. Également, on a un gros problème d'occupation des sols, donc exactement comme Paul Ledvey vient de le présenter, land use pour nous, c'est également aussi très important. On a aussi pas mal de problèmes sur la représentation des processus physiques, donc évidemment le bilan hydrique et l'évaporation qu'on retrouve à la fois dans le climat et puis dans la modélisation des écosystèmes, en tout cas pour les forêts, la végétation. Il y a la façon dont on représente les écoulements, en particulier le ruissellement ou l'infiltration, les transferts également vers la zone profonde, vers la nappe, qui ne sont pas toujours très bien connus, les écoulements en rivière, et puis bien sûr les interactions entre la nappe et les différents éléments. Voilà, et puis le dernier point donc, qui est pour l'hydrosystème est finalement très important, c'est l'anthropisation, avec des pompages qui ont lieu notamment dans les aquifères, des prélèvements également en rivière, la présence de seuils que nous sommes majoritairement en train d'enlever, ce qui modifie beaucoup les hauteurs d'eau en rivière, la création de barrages que là par contre peut-être on peut au contraire avoir une tendance opposée, et également de retenue collinaire. Je vais peut-être essayer d'aller avec ça. Ensuite, on utilise des modèles hydrogéologiques également pour travailler sur la pollution de l'eau. Et pour ça, on a besoin de connaître les transferts de polluants diffus, donc souvent d'origine agricole, ou parfois ponctuels. Donc je mentionnerai assez peu aujourd'hui les problèmes qualitatifs, je vais surtout mentionner les problèmes quantitatifs. Alors, tout d'abord, en termes d'incertitudes liées aux conditions atmosphériques, donc, je vais insister sur les points qui sont sensibles au modèle hydrologique. Donc, tout d'abord, évidemment, les précipitations, ouais, on est très sensible aux précipitations, et particulièrement à la répartition spatiale et temporelle de ces pluies, qui sont importantes pour le modèle, et notamment pour les extrêmes hydrologiques. Alors, évidemment, pour un extrême hydrologique, on a besoin de connaître les extrêmes atmosphériques, mais pas seulement. C'est pas uniquement les pluies les plus fortes ou... Mais c'est également la persistance de situations sèches ou humides sur une certaine durée qui est importante, ou également la conjonction d'événements, parfois pas très forts, mais la conjonction de ces événements sur des affluents, qui peuvent conduire à un extrême hydrologique. Également, un point qui se retrouve vraiment en commun avec les modèles de climat, c'est l'estimation de l'évaporation. Donc, comme je vous ai dit, on a des modèles conceptuels beaucoup en hydrogéologie, et donc la plupart se basent sur la représentation du bilan hydrique qui est basé sur le calcul de l'ETP, l'évapotranspiration potentielle. Et une des questions qui se pose, c'est qu'est-ce que l'ETP sous changement climatique ? Parce que donc sous changement climatique, eh bien, il y a la demande atmosphérique, mais il y a aussi l'effet du CO2. Il y a aussi une évolution des plantes qui pourraient ne pas produire exactement le même indice foliaire sous changement climatique. Et voilà. Et nous, on a des modèles très simples qui ne prennent pas du tout en compte ces effets. Et donc, que signifie une ETP sous changement climatique? Voilà. Si je laisse la question ouverte. Et puis, on a quand même d'autres modèles qui sont un peu plus physiques, qui travaillent avec donc des modèles de type schéma de surface, comme dans les modèles atmosphériques. Et là, donc, pour eux, on a besoin de consistance dans le forçage atmosphérique, car cette consistance qui existe dans le modèle de climat, elle peut être parfois perdue par certaines méthodes de désagrégation. Donc en particulier, on peut avoir une inconsistance entre les précipitations, l'humidité et les rayonnements, ou alors des variations brusques d'un jour à l'autre, parce qu'il n'y a pas de consistance entre les modèles, enfin dans la méthode de désagrégation d'un jour à l'autre. Et ça peut perturber un petit peu l'estimation du bilan hydrique, donc en particulier de l'évaporation, des plus gros trop importants par exemple. Mais en fait, on retrouve exactement le même problème pour l'estimation de l'ETP, puisqu'on utilise ces variables pour calculer l'ETP. Donc voilà la sensibilité un petit peu particulière des modèles hydrologiques aux conditions atmosphériques et à leur désagrégation lorsqu'ils utilisent des projections climatiques. Et donc pour l'illustrer, je représente ici une carte des précipitations, enfin de l'évolution des précipitations à l'horizon 2050 sur la plaine alluviale du Rhin ici. Et on a cette projection climatique avec le même scénario stress, et simplement donc on voit en bleu une augmentation des pluies, en rouge une diminution, et voilà, on a des couleurs très contrastées, on voit qu'en fait on a une très belle diversité des projections. En fait, sur ce coup là c'est pas trop important parce que l'évolution est limitée, en fait entre 5% plus ou moins 5%, enfin, bref, c'est pas non plus des amplitudes très fortes, mais on a une forte variabilité spatiale d'un modèle de climat à l'autre, je préciserai même d'un modèle de climat désagrégé à l'autre. Donc ça, évidemment, ça a des impacts sur les débits. Et ici, c'est l'impact simulé sur les débits de la plaine alluviale du Rhin. Et donc, on peut voir que, du coup, pour certaines stations, on peut avoir des diminutions, des augmentations de débits. Donc, avec des amplitudes allant de plus 10 à moins 30%, uniquement liées donc, à l'incertitude sur les modèles de climat désagrégés. Alors une autre source d'incertitude, ce coup-ci, c'est celle associée aux méthodes de désagrégation. Alors ça, typiquement, c'est quelque chose qu'on sous-estimait complètement il y a une dizaine d'années. On prend en compte de plus en plus. Et ici, c'est une étude qui a été faite sur la région méditerranéenne, où on s'était intéressé, bon là, c'est ce que je présente, c'est des pluies intenses, donc le quantile 95, désagrégé par, enfin, estimé par un seul modèle de climat, sous scénario stress A1B. Et désagrégé avec trois méthodes, donc la méthode des anomalies, quantile et type de temps, et donc en bleu une augmentation de ces précipitations, en rouge une diminution, et on voit que les trois méthodes donnent des résultats assez différents. Alors cette méthode-là est vraiment très simple, mais même ces deux méthodes ici peuvent donner des résultats très très différents. Alors évidemment, encore une fois, en termes de débit, bah, il y a des impacts qui sont assez conséquents. Ici, on présente l'évolution des crues décennales, c'est-à-dire celles qui ont une période de retour, disons. Et en fonction des trois méthodes de désagrégation, et on constate qu'on peut avoir des amplitudes assez variées, donc non seulement par rapport à la méthode des anomalies, qui est très simplifiée, mais également d'une station à une autre, on peut avoir des amplitudes assez importantes. Et d'ailleurs, je précise ici, on peut avoir, donc ce que vous avez ici, c'est plus 100%, c'est donc bien un doublement des crues décennales qu'on peut avoir sur la région méditerranée, en tout cas avec cette étude. Alors ça, c'était pour l'incertitude liée aux conditions climatiques. Ensuite, donc je vais rentrer un petit peu plus dans l'incertitude liée aux processus physiques qui finalement sont plus nos compétences à nous, hydrogéologues, on va dire. Donc tout d'abord, il y a la fameuse estimation de l'évapotranspiration réelle, qui est donc, comme cela a été dit déjà ce matin, associée au stress hydrique. Et donc, en parallèle, donc, l'estimation des flux d'eau ruisselés infiltrés. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que souvent, on utilise l'hydrologie pour valider le flux d'évapotranspiration, mais donc forcément, on a exactement le même problème de l'estimation de ce flux. Et donc, ça dépend des propriétés du sol, de la végétation, voire également de la présence d'aquifères subaffleurants, sur lesquels je vais revenir tout à l'heure. On a également l'estimation des transferts de l'eau dans l'hydrosystème, qui dépend des propriétés hydrodynamiques, des aquifères et des rivières, mais aussi de la présence d'ouvrages, qui ne sont pas toujours pris en compte. Et donc, pour prendre en compte ces différentes incertitudes, les hydrologues ont pris l'habitude, depuis un certain temps, de faire des études en utilisant plusieurs modèles hydrologiques. Donc, pour le GIC, ça avait commencé au moins à l'époque du GIC-Rhône, donc ça fait une dizaine d'années. Et vraiment, c'est très très général. Donc là, je cite que des projets qui ont lieu sur la France, mais on utilise en général plusieurs modèles hydrologiques pour faire une étude d'impact du changement climatique sur l'hydrologie, en général. Donc évidemment, on a une incertitude qui est associée aux modèles de climat et aux méthodes de désagrégation. Et c'est celle qui domine en fait finalement par rapport au modèle hydrogéologique, à l'incertitude associée au modèle hydrogéologique en général. Je reviendrai là-dessus à la fin de mon exposé, mais c'est moins vrai quand on regarde les extrêmes hydrologiques où là en fait l'impact du modèle hydrogéologique est important. En termes de problèmes quantitatifs, ce qu'il faut voir c'est que en fait l'incertitude n'est pas forcément uniquement dans les processus qu'on prend en compte, mais aussi dans ceux qu'on néglige. Et ceux qu'on néglige, ce sont beaucoup les processus associés à la proximité des aquifères. Le premier, c'est la reprise évaporative, qui consiste à un prélèvement direct ou indirect de la végétation dans la nappe, qui est quasiment toujours négligé, alors qu'on sait que c'est conséquent, notamment sur les nappes alluviales. Et également, les échanges de nappes rivières qui sont pris en compte en général, mais qui sont considérés uniquement comme un apport de la nappe à la rivière et pas comme un flux de la rivière vers la nappe. Et donc, on travaille à améliorer ces relations et l'estimation de ces flux dans les deux sens. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Donc, c'est parce que tout d'abord, ce sont des processus qui se produisent actuellement, et aussi parce qu'en fait, on suppose qu'une modification du niveau piézométrique aura des conséquences importantes sur ces flux d'eau. Donc je vais l'illustrer ici. On va considérer que, en tout cas en France, la situation actuelle dominante, c'est cette situation-là, où on a une nappe ici en bleu qui n'est pas trop loin de la surface, qui alimente une rivière, et où des arbres peuvent puiser facilement de l'eau dedans. Or, on s'attend avec le changement climatique à avoir une baisse de la ressource en eau, donc une baisse du niveau de la nappe, qui ferait que les arbres ne pourraient plus puiser donc, l'eau dans la nappe et donc pourraient souffrir, en tout cas dans leur développement, voire mourir. Et également, la nappe n'alimenterait plus la rivière, mais il y aurait une inversion de flux. Et donc c'est la rivière qui alimenterait la nappe. Et donc la question c'est, est-ce que nos modèles sont capables de prendre en compte ces phénomènes et est-ce qu'ils le font bien? Alors, pour ce qui est de la reprise évaporative, qui est actuellement complètement négligée par la, je pense, 100% des modèles hydrogéologiques en France. On sait que c'est important, notamment sur l'ensemble du bassin aquitain. Il y a eu des mesures piézométriques journalières qui ont montré des fluctuations très marquées du niveau piézométrique qui est associé à ces flux d'évaporation. Et donc, Marie Guillot a estimé qu'il y avait environ 50% de l'évapotranspiration sur le bassin du Tagon qui provenait directement d'eau qui venait de la nappe. Et on a des chiffres à peu près similaires sur la nappe alluviale du Rhin. Mais évidemment, on s'attend à ce que ce soit assez similaire dans la plupart des zones humides. Alors, on essaye de travailler là-dessus à l'échelle des modèles hydrogéologiques. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, la communauté du climat va plus vite que nous, parce que dans les modèles de climat, ils font un gros effort pour coupler les schémas de surface à des modélisations hydrogéologiques à grande échelle. Alors l'autre point, c'est donc l'estimation des interactions nappe-rivière. Et là, l'estimation de l'inversion des flux. Donc là, je mets juste une petite équation, c'est juste pour pouvoir un petit peu définir les paramètres. Donc on a cette équation qui définit les échanges entre la nappe et la rivière. Et ça dépend de la charge piézométrique donc, qui, elle, est calculée par le modèle hydrogéologique. De la charge en rivière qui, elle, bah, dépend des conditions hydrauliques, donc de caractérisation du lit, etc. Et puis, enfin, des propriétés du lit, qui sont bien souvent uniquement des paramètres en entrée du modèle. Alors, ces paramètres sont mal connus, la hauteur en rivière est difficile à estimer, Et donc, cela conduit en ce moment à une grosse activité autour de différents travaux. Donc, notamment, je citerai le projet Onema Lab Pro. Mais Pascal ne m'écoute pas, donc voilà, sur lequel on travaille à quantifier par des méthodes de modélisation et d'observation ces différents flux. Et juste pour, je vais illustrer l'importance de ces flux sur le bassin versant de la Loire. Donc, c'est une étude qui a été menée dans le cadre de la thèse de Céline Monteil, qui a été financée par EDF. Donc, vous avez ici de Gien, c'est-à-dire à peu près par ici, jusqu'à Poncet, c'est-à-dire à peu près par là. Donc, l'estimation des apports de la nappe vers la rivière en bleu et en rouge, l'infiltration de la Loire vers la nappe. Donc, on voit qu'il y a certains endroits où ce flux peut être conséquent. Et donc, cette thèse a été financée par EDF parce qu'en fait, il se trouve que sur le bassin de la Loire, il y a plusieurs centrales nucléaires. Et en fait, l'idée, c'est de savoir comment sont les échanges actuels et comment ils vont évoluer de toute façon. Enfin, comment ils pourraient évoluer dans le futur. Donc voilà, ça, c'est une illustration. On a regardé quand même, puisqu'on a beaucoup d'incertitudes sur la façon dont on estime ces paramètres, quelles sont leurs sensibilités. Enfin, ces échanges, quelles sont leurs sensibilités aux paramètres. Donc, c'est une étude qu'on a réalisée sur le Rhin. Alors, vous avez ici le bilan de la recharge de l'aquifère, c'est-à-dire les différents flux qui contribuent à alimenter la nappe. En fait, en bleu, vous avez l'infiltration des cours d'eau, en vert, la pluie efficace, et puis en rouge, les flux sublatéraux. Alors, sur la nappe alluviale du Rhin, en fait, on a 80% de la recherche qui vient en fait des cours d'eau, de l'infiltration des cours d'eau, donc c'est vraiment conséquent. Et puis ce qu'on constate, c'est que en fonction des différents paramètres du modèle, on peut avoir une fluctuation importante de cette estimation de l'apport de la nappe, hein, une fluctuation de 66% ici, avec une incertitude en moyenne sur l'ensemble des paramètres de 14%. Alors la question, c'est évidemment, quand on voit une telle fluctuation de l'apport de l'infiltration des rivières à l'actuel, quel est l'impact sur le changement climatique. Et finalement, ce qu'on a pu regarder en utilisant différents modèles de climat, c'est qu'en fait, cet impact est quand même assez limité. Sous le changement climatique, on a une réponse qui est assez homogène, puisqu'ici, l'évolution sous changement climatique de ce flux varie uniquement de 2 à 5%. Donc, on a quand même une stabilité assez nette de ce flux sous changement climatique, malgré le fait que les processus simulés ou leur intensité soient assez différentes. Voilà. Alors, maintenant, je vais juste aborder les incertitudes associées aux problèmes qualitatifs, sans montrer trop d'insultats. Le problème qu'on a avec le changement climatique et la pollution diffuse, c'est l'évolution des flux émis sous changement climatique. Alors, je ne parle même pas des changements de pratiques agricoles ici. Je pense seulement aux problèmes physiques. La question en particulier, c'est de savoir si la lixiviation des polluants, puisque la lixiviation des polluants dépend des précipitations, en général et du bilan hydrique en particulier, comment vont évoluer ces flux d'eau et est-ce qu'elles seront compensées par une évolution inverse des concentrations? C'est-à-dire, en gros, s'il y a moins d'infiltration, est-ce qu'il y aura la même quantité d'eau lixiviée parce que la concentration de cette eau, de ces flux, sera plus importante? Donc, ça, c'est une question qui n'est pas encore complètement résolu, qui pourrait potentiellement dépendre du soluté. Et également, il y a une évolution des temps de transfert du fait d'une enfin, il y a une évolution des temps de transfert, et ceci joue en interaction avec les processus de dégradation et d'absorption, et ce qui fait qu'on n'est pas du tout sûr de récupérer les mêmes quantités pour un même flux donné. En particulier, le fait que la profondeur de la nappe pourrait être plus importante dans le futur, ça peut laisser plus de temps à des processus d'absorption, de sorption, voire de dégradation. Mais évidemment, ça dépend des conditions du milieu. Voilà. Maintenant, je vais aborder les impacts liés à l'anthropisation. Donc, on a des impacts vraiment directs sur l'hydrosystème qui sont associés à des prélèvements en nappe, en rivière, la présence de barrages, l'effacement de seuil, par exemple. Qui vont impacter directement le fonctionnement des hydrosystèmes. Alors, je fais un zoom ici sur les prélèvements en nappe. Ici, c'est une illustration des prélèvements sur les bassins de la Seine et du Rhin, tels qu'on les connaît à l'heure actuelle. Donc, un point correspond à un prélèvement connu. Et ici, donc, voilà. Et ici, on a une évolution des volumes prélevés sur le bassin de la Seine. Donc ici, c'est 50 millions de mètres cubes. Et ici, c'est des superficies, en fait, c'est pas des années. Donc en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'on a une tendance, pas tout à fait linéaire, mais quand même une tendance à l'augmentation des prélèvements en nappe sur la période. Et rien que les prélèvements, excusez-moi, pour l'irrigation, représentent déjà 40% de la recharge sur l'aquifère de la Seine en bosse. Donc c'est déjà non négligeable à l'heure actuelle. Donc la question, c'est comment ça va évoluer dans le futur. Alors dans le cadre d'un projet mené avec le ministère de l'Environnement, il y a eu des scénarios d'évolution des prélèvements qui ont été réalisés par le BIP. Et voici une carte des évolutions de ces prélèvements pour l'eau potable ici. Donc typiquement pour l'eau potable, c'est assez réaliste. On a une diminution des prélèvements pour l'eau potable qui sont liés à des économies d'eau réalisées notamment par les moyens électroménagers modernes. Ici, on a une projection des modifications de prélèvements industriels que je qualifierais de relativement optimiste. On a une diminution qui est supérieure à 40%. Le BIP nous a expliqué que c'était essentiellement lié au fait qu'il considérait qu'il y aurait des modifications des conditions énergétiques avec, par exemple, des centrales nucléaires qui seraient beaucoup moins consommatrices d'eau. Mais bon, ça fait quand même une très très forte diminution. Et puis, ils n'ont pas été à ce stade, excusez-moi, ils n'ont pas pris à ce stade en compte des variations des prélèvements pour l'agriculture, ce qui fait qu'au total, on avait une baisse quand même assez marquée des diminutions des prélèvements en nappe de l'ordre de 25%. Et cette diminution, en fait, a permis évidemment de faire remonter un petit peu le niveau de la nappe. Donc ici, pour chacun des aquifères de la Seine, on a l'évolution maximale du niveau piézométrique obtenu après le modèle. Donc ça va jusqu'à 16 mètres pour l'aquifère de la Craie, ici l'aquifère le plus bas. Et je vous montre ici une carte des évolutions sur l'aquifère de la Craie. Évidemment, c'est centré sur les points où il y avait beaucoup de prélèvements. Et ailleurs, c'est relativement réduit. Donc ici, on voit qu'il a été possible de réaliser une évolution, un scénario de prélèvement dans les aquifères, mais qui ne prenait pas en compte un point important, a priori, c'est l'évolution des prélèvements agricoles. Et c'est quelque chose sur lequel on a pu travailler, notamment avec la DREAL Pays de la Loire, qui sont déjà confrontés à des problèmes d'adaptation pour le développement de l'irrigation et la volonté de création de retenues collinaires par les agriculteurs. Le principe d'une retenue collinaire, c'est de créer des petits lacs ou étangs afin de prélever de l'eau en hiver pour la rendre disponible en été pour l'irrigation. La question que se pose la DREAL Pays de la Loire, c'est quelle superficie de retenue collinaire peuvent-ils accepter pour avoir des contraintes sur l'environnement qui ne soient pas trop fortes. Alors, on s'intéresse à un petit bassin versant, je crois connu pour son coteau. C'est un alcool que je ne connais pas, le Layou. C'est bon. Et donc, ici, vous avez les débits mensuels du coteau du Layou, sans retenue collinaire sur l'actuel. Ici, vous avez l'estimation de l'évolution du débit du Layou, toujours en termes de débit mensuel, sous changement climatique. Donc on voit une modification du cycle hydrologique de ce bassin versant, avec notamment un étiage qui est prolongé d'un mois pour cette projection, qui est une projection sous scénario 1B, si arpège à 1B, désagrégé par les types de temps. Alors qu'est-ce qui se passe là-dessus si on considère le développement de retenues collinaires avec une capacité de stockage qui n'est pas irréaliste puisqu'elle correspond au prélèvement actuel en fait. Et bien voilà ce qui se passe. Donc on a un renforcement en fait des étiages qui sont liés au fait que les prélèvements les retenues collinaires ont actuellement le droit d'être remplies à partir du mois de novembre jusqu'au mois de mars. Et donc dès la reprise des précipitations en novembre, elles se remplissent et elles ont un impact donc très marqué sur le cycle hydrologique. Cet étiage prolongé de 2 mois, en fait, par rapport à l'actuel, semble un petit peu difficile. Et donc, il y aurait la volonté de modifier les règles de gestion de ces retenues collinaires avec un remplissage peut-être plus court, hein, uniquement limité à 3 mois, qui permettrait du coup de limiter les impacts sur les étiages, mais par contre augmenterait le risque d'échec de remplissage de ces retenues collinaires et également aurait un impact plus marqué sur les crues. Et les crues sur ces bassins ont des propriétés hydromorphes qui sont recherchées par les gestionnaires pour empêcher les effets de vase, l'accumulation de vase ou autre chose comme ça. Voilà. Donc ça, c'était pour les impacts vraiment directs sur les hydrosystèmes. Il y a également un tas d'impacts indirects, notamment l'évolution des occupations du sol et des pratiques agricoles. Donc évidemment, c'est très important. Donc, l'évolution des occupations du sol, donc que ce soit des forêts ou des cultures. Ça fait l'objet de nouveaux travaux disciplinaires, donc je citerai en particulier le tout nouveau LABEX basque, qui veut dire biodiversité, agro-système, climat et société. Et à ce jour, je pense que les études, elles sont effectivement... il y en a à l'échelle globale, donc... les travaux qui ont été présentés par Paul Ledvé dans le cadre du projet LUC, je crois. Mais à l'échelle régionale, en fait, il y a encore peu de scénarios. Et nous sommes dans un projet au ANR là, qui va travailler sur l'impact de l'évolution de l'occupation des sols et l'impact hydrologique sur 2 bassins versants français, c'est dans le cadre de projet ANR Oracle, mais à ce jour, on n'a pas encore vraiment d'éléments là-dessus. Voilà, évidemment, l'évolution de l'occupation des sols et des pratiques agricoles ont un lien direct sur l'évolution des pollutions diffuses, et donc on pourra sans doute passer de l'un à l'autre assez facilement. Voilà, en conclusion, donc, la quantification des incertitudes, c'est juste un travail, je dirais, relativement théorique, parce que en fait, ça permet un petit peu de classer l'intensité de chaque source d'incertitude, mais en fait, on a un travail qui est toujours incomplet. On n'a jamais encore une étude qui a réalisé la prise en compte de toutes les sources d'incertitude. Donc là, je vais juste citer 2 études où on a utilisé la méthode pour quantifier les sources d'incertitude. Donc la Evergreen, où on avait 7 modèles de climat, 3 scénarios stress, mais un seul modèle hydrologique avec plusieurs paramètres hydrodynamiques. Et là, on analyse l'évolution de la recharge de la nappe dans le futur. Et on exprime la quantification des incertitudes par une variance, en fait, sous 2 horizons. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que en 2050, on a un seul scénario stress et un B. Et dans ces conditions, c'est clairement l'incertitude sur les résultats du GCM qui génère le plus d'incertitudes, loin devant l'incertitude sur les paramètres hydrodynamiques. Par contre, à l'horizon 2100, où on a les 3 scénarios stress, là on voit que le poids des scénarios stress devient important, mais sans doute que cette analyse est biaisée parce qu'on n'a pas du tout le même nombre d'éléments pour chaque scénario stress. En tout cas, clairement, ici il ressort que c'est bien... l'impact sur le climat qui est dominant, pas comme on l'a montré tout à l'heure. La 2e étude sur laquelle on a fait le même type d'analyse, c'est le JCREC 6. Pour le coup, là, on avait toujours 7 ou 8 modèles de climat, 3 méthodes de désagrégation, on avait 4 modèles hydrologiques, et on avait également les 2 périodes d'études. Et là, ce qu'on a obtenu dans un premier temps, ici, c'est des variances qui sont cumulées. Ce qu'on a obtenu dans un premier temps, c'est en fait un rôle dominant des modèles hydrologiques. Alors là, pour le coup, on retombait sur des résultats similaires à ce qu'a trouvé Paul. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que dans les modèles hydrologiques, il n'y en a rien dont on a trouvé qu'il avait des résultats un petit peu aberrants, notamment sur la façon dont il prenait le stress hydrique. Et quand on enlève ce modèle, eh bien, on retrouve ici une forte dominance des variances associées au modèle de climat, mais également au modèle de désagrégation. Donc jusqu'à présent, finalement, c'est toujours ce qu'on en conclut en hydrologie. L'incertitude principale, c'est celle associée au modèle de climat et aux méthodes de désagrégation, malgré le fait qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'on ne prend pas en compte. Voilà, donc en conclusion, il nous reste encore beaucoup de travaux à faire pour prendre en compte l'ensemble des incertitudes, notamment améliorer les processus physiques et la caractérisation du milieu, et puis mieux prendre en compte l'anthropisation. Mais évidemment, ça, c'est en supposant que nos collègues climatologues et régionalisateurs avancent également de leur côté pour améliorer la reproduction de potentiels scénarios futurs.
Merci Florence. Quelques questions.
Agence de l'Océan Normandie. J'ai été interpellée par votre interprétation des augmentations, des diminutions des prélèvements, notamment à nappe, par différents usages. Parce qu'il faut bien savoir qu'en France, on ne possède pas des banques de données bien carrées comme il faut sur ces questions-là. Notamment, les questions de prélèvement sont souvent abordées via les redevances, via les indicateurs financiers des agences de l'eau. Ouais. Et les agences sont bien placées que dans les tendances que vous avez montrées, il y a d'autres effets peut-être. Ça veut dire qu'on n'a pas forcément demandé de déclarer à partir d'un même seuil de prélèvement. Donc ça se trouve dans le passé, on n'a pas demandé de déclarer des petits prélèvements. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, on n'est pas sûr du tout qu'on a recensé tous les prélèvements agricoles. Loin de là. Ça veut dire qu'il y a une forte incertitude aussi sur cette partie-là. Donc, et sur les interprétations des diminutions de prélèvements industriels, il faut aussi faire attention parce qu'il y a une question de déprise industrielle. Et changement du paysage industriel. Les industries qui utilisaient beaucoup d'eau, enfin jadis, ne sont plus en France. Donc on les a délocalisées. Et à propos de potable aussi, on a amélioré les réseaux d'un côté, il y a moins de pertes, mais il y a quand même des pertes. Est-ce que ces pertes aussi seront prises en compte ou pas, sachant que ça peut aller très loin, on peut perdre 50% d'eau, et dans les réseaux d'eau usée, et dans les réseaux d'eau potable. Et encore une chose que je remarquais d'un certain modèle que j'utilise personnellement. Donc on n'a pas pris en compte souvent les transferts d'eau interbassin ou d'un cours d'eau à l'autre. Alors ça peut être très intéressant quand l'eau de Paris pompe dans les autres cours d'eau ou capte les sources dans les autres cours d'eau. Ça doit influencer aussi localement assez fortement, me semble, tous ces processus hydrologiques. Voilà, donc cette incertitude est peut-être aussi à prendre en compte. Dans la construction des scénarios anthropiques, d'ailleurs, pour le futur aussi, et puis, on peut ajuster nos modèles d'aujourd'hui.
Juste, je suis d'accord, on sait très bien que ces scénarios sont incertains. Enfin, je ne sais pas si ça marche. Mais donc, on sait bien que ces données sont très incertaines. Maintenant, nous, on utilise l'information dont on dispose. On l'invente pas, on sait que c'est très probablement faux. Là encore, on le prend en compte, il y a un tas de bassins sur lesquels on ne le prend pas en compte. On sait que des fois, les volumes pompés, ça représente 10% du débit qu'on peut simuler. C'est vraiment conséquent. Bon alors, on n'est pas à 6 degrés près, j'ai compris ce matin, donc pour relativiser. Mais c'est clair que nous, notre travail d'hydrologue, je pense que c'est notre métier d'essayer d'améliorer la prise en compte de l'anthropisation. Pour ce qui est des scénarios du BIP, ça par contre, nous, on ne fait pas de projection. Pour le cas de l'industrie, c'était vraiment lié aux industries énergétiques. Et je crois qu'ils considéraient qu'on allait tout de suite passer à l'EPR et qu'on allait tout de suite faire beaucoup d'économies d'eau. Enfin, je sais pas, il y avait quelque chose comme ça. Alors, c'est pas vrai.
Quelle
autre question, Laurent ? C'est à la fois pour toi, Flo, et puis pour Paul aussi, c'est la question d'effet du CO2 donc, sur les plantes. Il y a eu un certain nombre d'études assez polémiques sur cet effet-là, les Anglais ont essayé de quantifier ça en regardant les débits, une donnée intégratrice qui permettrait peut-être de trancher. Et il y a beaucoup de gens très critiques sur cette étude des Anglais qui donne un effet très important du CO2. Alors ça, c'est typiquement ce que j'ai appelé ce matin l'incertitude épistémique, dans les deux cas. Donc c'est une certitude qu'on peut espérer réduire. Alors est-ce qu'il y a des pistes est-ce qu'on peut faire, est-ce que toute expérimentation est impossible, ou il y a des choses qui sont faites là-dedans pour essayer de voir si ce qui a été proposé par les Anglais est vraiment en dehors des bornes possibles, quoi. Ou est-ce que c'est quelque chose qui apparaît aujourd'hui comme réaliste, et est-ce que c'est possible de quantifier cet effet-là en regardant les débits? Est-ce qu'on a des observations suffisamment précises sur les débits pour pouvoir, des observations, j'entends, pas des projections, des observations pour pouvoir essayer d'attribuer des changements éventuels des débits à l'échelle globale à cet effet-là. Parce qu'en gros, c'est ce que les Anglais ont essayé de proposer dans leur papier, mais qui a été très critiqué par la suite.
Bah, je pense que des stations de débit qui ne sont pas anthropisées, on peut les compter. Il n'y en a pas tant que ça, c'est souvent des tout petits bassins. Est-ce que c'est vraiment représentatif? Après, il faut être capable de dire est-ce qu'il y a eu un changement d'occupation des terres. Enfin, je pense que c'est pas... je pense que c'est très compliqué. Après, pour ce qui est de l'efficacité du CO2 sur les plantes, je sais que les agronomes font beaucoup de mesures dans les champs, en serre, etc. Mais même comme ça, je pense qu'il y a beaucoup de... c'est un grand débat encore à l'heure actuelle. Peut-être Paul, tu veux dire quelque chose?
Donc le problème, c'est de regarder les effets de CO2 surtout sur les forêts. Donc si on veut estimer les effets sur la vapeur-transpiration, il faut faire ça en pleine forêt avec les arbres adultes. Et on peut compter le nombre d'expériences comme ça sur le doigt d'une main. Ouais. Et donc ça pose un problème. Et ce n'est pas impossible de faire ces expériences. Sur d'autres types de végétation, il y a beaucoup plus d'études. Et donc, effectivement, on peut voir un impact sur le taux de vapeur-transpiration qui est, je pense, que mieux cerné maintenant, mais à l'échelle de parcelles.
Bien, merci. On va continuer notre tour d'horizon sur les aspects plus économiques, socio-économiques, avec les modèles... Integrated Assessment Models, je ne sais plus le dire en français, avec Alain Henry de l'Université de Genève, et puis après on aura mis un jour de Cyrède.